Comme annoncé, on retrouve tout de suite Arlette pour la revue de presse des Hebdos. Salut Arlette.
Bonjour Léo et bonjour à toutes et à toutes. Alors en guise de préambule à la première revue de presse de la saison, j'avais envie de faire un petit récapitulatif de l'exercice que je n'ai pas fait l'année dernière et c'est peut-être pas bien. Alors chaque vendredi, je vous présente une revue de presse des Hebdos aussi équilibrée que le permet mon honnêteté intellectuelle. Personnel. Alors, les hebdos sont, vous le savez...
Nombreux.
Ah bah oui, tiens. Ceux qui traitent de l'actualité aussi. Le site de la FNAC en propose 29. Moi, j'en ai choisi 5.
Et c'est la variété qui a guidé ton choix ?
Oui, mais aussi leur fonctionnement. La liberté de la rédaction, affirmée, prouvée, nécessaire à la qualité de l'information.
Allez, présente-nous ton choix. Le Canard enchaîné.
Alors, c'est un hebdomadaire satirique et d'enquête, ça vous le savez. Il a été fondé le 10 septembre 1915 et c'est le plus ancien titre de la presse satirique encore actif. Alors depuis les années 1960, c'est aussi un journal d'enquête qui révèle nombre d'affaires scandaleuses. Alors ça, j'avoue que j'aime bien, comme l'humour des titres et sans oublier les dessins de presse qui sont très savoureux. Le Canard enchaîné présente la particularité que son capital est verrouillé pour protéger son indépendance, justement. Ses statuts imposent que ses actions soient détenues uniquement par les journalistes ou les retraités du journal.
Télérama.
C'est un magazine culturel hebdomadaire. Il traite du cinéma, de la télévision, des documentaires, de la musique, de la littérature, du théâtre et de la vie culturelle en général. C'est une filiale du groupe Le Monde.
L'Express.
Un magazine d'actualité, d'obédience libérale. L'Express est détenu depuis septembre 2023 à 100% par l'homme d'affaires Alain Veil via la société Next Now. C'est un hebdo sérieux, très dense et qui annonce clairement ses choix éditoriaux.
Courrier international.
C'est un hebdomadaire d'information fondé en 1990. Paraissant chaque jeudi, il est entièrement constitué d'articles de journaux étrangers qui sont traduits en français. Alors, vous vous rendez compte, c'est un exercice extraordinaire. Courrier international est une filiale, lui aussi, du groupe Le Monde.
Le 1.
Le 1, c'est un hebdomadaire qui a été lancé par Eric Fotorino en avril 2014. Ce journal, conçu avec Laurent Grail-Sammer, traite chaque semaine une grande question d'actualité à travers les regards d'écrivains, de chercheurs, de philosophes ou d'anthropologues et aussi d'artistes, poètes, illustrateurs et d'experts divers. Le 1 est aussi un mini-groupe de presse et d'édition qui réalise 3,6 millions d'euros de chiffre d'affaires et emploie 15 salariés. Voilà, alors c'est un choix contestable, certainement. Il ne représente certainement pas toutes les opinions, mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu.
Bon, alors on commence par lequel ?
Eh bien par Le Canard, et ça tombe bien. L'édito est intitulé « Presse et pression » et commence ainsi. La liberté de la presse ne s'use que quand on ne s'en sert pas. C'est la devise du Canard depuis sa création et elle est d'actualité plus que jamais, nous rappelle avec rage Éric Kemptaz. Il analyse les incohérences du pouvoir qui, en même temps, alors on sait que c'est le credo du président, lance des états généraux de la presse et lance aussi les magistrats au nom du secret défense dans une action contre Ariane Lavrieux, journaliste freelance, l'a fait mettre en garde à vue.
Elle enquêtait sur les ventes d'armes à l'Égypte.
Oui. On a perquisitionné son domicile, embarqué ses documents, ordinateurs compris, pour découvrir ses sources, dont le secret est garanti par la loi, je vous le rappelle. Emtaz enrage et cible aussi les incohérences qui font que les propriétaires de la presse ne sont pas des patrons de presse, mais des dirigeants de grands groupes industriels ou financiers.
Il en cite 11.
Eh oui, qui détiennent le droit d'informer et remettent ainsi en question l'indépendance de cette information. Alors il faut le lire absolument, Le Canard de cette semaine. Et encore plus avant, page 3, Saadé, le nouveau milliardaire anti-Bolloré de Macron et qui lui vient de créer un nouveau journal du dimanche. Bien.
On passe au 1 qui titre « Y a-t-il une vie après le pétrole ?»
Dans son édito, Patrice Trappier présente le sujet. Plus d'un siècle et demi après les débuts de son exploitation industrielle, vous vous rendez compte, un siècle et demi, On a vraiment qui a, enfin vraiment, quand on sait les effets oui. de ce siècle et demi, c'est incroyable. L'or noir est confronté à ses propres limites, son épuisement annoncé, dont la perspective est aujourd'hui repoussée par la découverte de nouvelles sources, et climatique. Du premier choc pétrolier en 1973 à la guerre d'Ukraine, les crises à répétition semblent sans cesse nous rapprocher de l'horizon d'un monde sans pétrole. Alors dans ce numéro, l'économiste Emmanuel H. analyse les évolutions du marché pétrolier et insiste sur la nécessité de repenser la façon dont nous consommons cette ressource. Coordinatrice de la campagne sur la pétrochimie des ONG, Ciel et Brick Free From Plastic, Delphine Lévy-Alvarez décrypte le repositionnement stratégique des géants du pétrole pour préserver leurs profits, bien évidemment. Selon la juriste et politiste Nassima Wahb Al-Attameh, les régimes pétroliers du Golfe peinent à se défaire de leur addiction au pétrole et à préparer leur société à la transition écologique. Et pour se convaincre de la réalité des faits, rien de tel que la littérature. Lisez l'extrait du livre « Brut » de Dalibor Friou, conseiller auprès du Conseil économique, social et environnemental. Dans ce livre, il imagine la Norvège en 2050 en proie à la flambée des prix et à la raréfaction du pétrole.
On souffle un peu avec Télérama. En couverture, la photo de Romain Duris dans une posture quasiment de danseur.
D'ailleurs, à la question d'Hélène Marzeuf, qui mène l'entretien, « Êtes-vous toujours titillé par le démon de la danse ?» Il répond « Toujours ». Alors, Duris en invité de la semaine parce qu'il est à l'affiche dans « Le règne animal ». Un autre film en vedette dans ce numéro, le documentaire de Claire Simon, qui filme le corps des femmes. « J'ai vu le corps dans sa beauté et dans son bordel. La vie des femmes est souvent rythmée par des rendez-vous cliniques avec leur corps. » Claire Simon les a filmés avec une grande délicatesse. À Blois se déroulent jusqu'à dimanche les rendez-vous de l'histoire. Annette Viviorca en est l'invitée d'honneur. Télérama nous présente page 31, cette spécialiste de la Shoah et de sa mémoire qui dit d'elle-même « Longtemps, je me suis demandé si j'étais vraiment historienne. Je sentais bien que je ne travaillais pas exactement comme tout le monde. » Et pour finir, et comme en écho au sujet de la presse traitée dans le Canard, un long article sur un de ces capitaines d'industrie qui se paye des journaux, Rodolphe Saadé, on y revient. Après avoir repris la Provence, l'armateur franco-libanais lance la Tribune Dimanche, concurrent du JDD, avec la bénédiction de l'Élysée.
En couverture de Courrier International, un dessin de l'Autrichien Petar Pismestrovic illustre le thème du dossier de la semaine.
Oui, un dessin extraordinaire d'ailleurs. Toute la semaine, vous avez entendu parler de l'Arménie, du Haut-Karabakh. Si vous souhaitez en savoir plus, pour comprendre le pourquoi du comment de cette guerre qui jette dans l'exode des milliers de personnes, vous êtes au bon endroit. Claire Carrard le précise dans l'édito. C'est ce que nous tentons de décrypter cette semaine en confrontant les presses des pays concernés, directement ou indirectement, par ce conflit, et ils sont nombreux. Des articles accompagnés de nombreuses cartes, indispensables à la compréhension des enjeux historiques et géopolitiques des tensions dans le Caucase. Alors à lire dans le dossier page 32, « La poudrière du Caucase ». D'autres titres dans cet hebdo, Ukraine, le spectacle est terminé, monsieur Zelensky. Ou encore France, JO, la Seine-Saint-Denis fait peau neuve. Et pour finir, l'intrigant titre, Culture, dans les ressorts de la puissance moghole, m'a donné envie d'aller page 48. Vous trouverez la photo d'une miniature peinte en 1620. Qui représente une réception officielle à la cour de l'empereur moghol, Jahangir. Elle recèle un objet intrigant, un automate à l'effigie de la déesse Diane. Mais que fait-il là? Alors lisez ce long papier signé Kamayani Sharma, critique d'art, chercheuse. Elle explore la culture visuelle et la scène artistique contemporaine du sud-est asiatique. Et c'est passionnant.
Et dans l'Express, quoi de neuf?
Pas vraiment du neuf, mais l'hebdo approfondit un de ses sujets d'inquiétude préférés, l'immigration. Avec l'Américain Stephen Smith, qui enseigne les études africaines à Duke depuis 2007. Ce spécialiste des études africaines, auteur de La ruée vers l'Europe, revient sur les causes, les effets et les réponses possibles aux phénomènes migratoires. Pour lui, l'immigration sera le sujet des prochaines décennies. Deux autres spécialistes analysent le sujet. Pour Agnès Laurent, les politiques ne cessent de se réclamer de l'opinion publique pour justifier leurs choix. Mais que dit clairement la Vox Populi ? Et pour Hamdam Mostafavi, directrice du développement éditorial à l'Express, en signant un accord avec Tunis, l'UE a voulu reproduire le modèle turc, mais les conditions ne semblent pas réunies pour qu'il fonctionne. Et pour finir, un dossier intitulé « Immigration, le dossier noir » d'Emmanuel Macron, signé Paul Chollet et Éric Mandonnet.
Et cette année, tu termines encore avec Rob Bresny, l'un des astrologues américains les plus lus de la planète. Ses horoscopes sont traduits en français et publiés sur le site de Courrier International. Cette semaine, il s'adresse à celles et ceux qui sont nés sous le signe de la Vierge.
T'arrive-t-il de faire des expériences sur toi-même, Vierge ? Personnellement, c'est un exercice auquel je me livre régulièrement. Je m'interroge sur ce qui pourrait être sain pour moi, puis j'essaie diverses solutions pour voir ce qui me convient le mieux. Récemment, j'ai aussi tenté de voir si je me sentais mieux en faisant 5 petits repas par jour ou un seul gros. Si mon sommeil était plus régénérateur quand je me couchais à 22h pour me lever à 7h ou quand je dormais de minuit à 9h. Alors je te recommande ce type d'expérience dans les semaines à venir. Écoute ton corps, il y a bien des confidences et des révélations à te faire.
Campus Bordeaux.
88.1.
Campus Bordeaux 88.1.